parole à Martial.
Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je n'ajouterai rien à ce qu'a dit Pierre Valéis. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Alors, que je vous dise quand même aussi tout de suite que je ne vais pas être tendre pour l'état-major de la français de 1914. Mais ce n'est pas une diatribe contre l'armée du tout. Hein. Simplement, bon, l'armée, je la respecte évidemment. Et d'ailleurs, j'ai fait mon service militaire comme tout le monde et je ne me porte pas plus mal. Hein. Voilà. Alors, le sommaire de la conférence est le suivant. Définition et classification des fusillés pour l'exemple. Constitution de tribunaux militaires. Rôle des politiques et rôle des militaires. La chronologie des exécutions pendant la durée du conflit. Ensuite, j'aborderai le fameux thème ultra-sensible de la réhabilitation. Des notions de désertion et de mutinerie aussi, qui sont venues s'ajouter. Hein. Puis après, nous marquerons une pause, c'est bien ça, je pense. Hein. Et voilà. Puis après, on engagera le débat. Là, vous pourrez me poser des questions, vous les posez entre vous. Je répondrai aux questions dans la mesure de mes capacités, de mes connaissances, évidemment. Puis après, dans un deuxième temps, je poursuivrai la conférence et je vous parlerai des fusillés pour l'exemple environnés. Il y en a eu. Je n'ai pas le droit de vous les citer pour des raisons de confidentialité, parce que c'est la proximité quand même. Hein. Après, des fusillés pour l'exemple célèbres dans l'armée française, les fusillés pour l'exemple dans les autres armées, et puis après, tout ce qui touche à la mémoire, notamment les monuments pacifistes. Nous avons sélectionné une quinzaine de nouveaux monuments, vous verrez, que nous avons estimé être les mieux. Hein. Après, il y a les films documentaires, la bibliographie, elle nous en a parlé, et puis je terminerai par un épilogue, une conclusion. Voilà. Alors, lorsque la guerre s'achève le 11 novembre 1918, l'Europe compte ses morts. Parmi les principaux pays belligérants, et par rapport à sa population qui n'est que de 39 millions d'habitants à l'époque, c'est la France qui a le plus souffert, avec 1 410 000 morts, plus 3 500 000 blessés ou traumatisés à vie, sur un total de 8 millions d'hommes mobilisés. 4 hommes sur 10 seulement sont sortis indemnes du conflit. Mais, comme si ça ne suffisait pas de mourir des obus et des balles allemandes, des soldats français sont morts par des balles françaises. Et ça n'était pas des balles perdues, mais des balles tirées par les pelotons d'exécution. En effet, des soldats, de bons soldats, pour des motifs dérisoires ou imaginaires, ont été arrêtés, jugés par les tribunaux militaires, condamnés et pour certains d'entre eux, exécutés. On les a appelés, et on les appelle toujours, les fusillés pour l'exemple. Voilà. Alors, avant d'en venir là, les soldats qui se rendaient coupables de délits au sens de la justice militaire étaient traduits devant les conseils de guerre. Bon. Alors, le code de justice militaire prévoyait 27 motifs possibles de passage devant le conseil de guerre. Voilà. Alors, ici, il y en a 27, mais on n'en a sélectionné que les 10 premiers. Les premiers, vous voyez, la désertion, mais je vous en parlais tout à l'heure, hein. Il ne faut pas s'affoler sur ce chiffre parce qu'il ne correspond pas à la réalité des déserteurs. Voilà. Les premiers sont ici, les plus nombreux. Les fusillés, par exemple, vont se retrouver dans ces 4 ou 5 listes premières. Voilà. Mais ça va jusqu'à le 27e, c'est blessure volontaire à un cheval. Et bon, il y en a un ou deux par division. Alors ça, c'est sur une seule division d'infanterie, il y a eu jusqu'à 1700 motifs de passage en conseil de guerre. Alors, quand on sait qu'une division, c'est à peu près 15 000 hommes, mais que la France alignait à peu près 100 à 110 divisions, il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de soldats qui ont été traduits en conseil de guerre. Mais ils n'ont pas tous des fusillés, heureusement. Hein. Voilà. Mais, donc, les deux premiers motifs de condamnation, de passage au conseil de guerre, hein, la mutinerie, par exemple, c'est énorme comme chiffre. Hein, mais en fait, il faut le relativiser parce que tout soldat qui rentrait en retard de permission, il devait rentrer tel jour, s'il n'était pas rentré dans les 24 heures qui suivaient, il était déserteur. Hein. Par conséquent, il y a eu des dizaines de milliers de soldats qui sont rentrés en retard de permission et qui étaient donc déserteurs. Mais ils n'ont pas été fusillés. sauf s'il y avait récidive. Voilà. Alors, les deux premiers motifs de condamnation, désertion et abandon de poste, constituent la majorité des motifs de passage au conseil de guerre. 70% environ, mais moins de 70% des peines de mort. En effet, les cas de désertion dont étaient les vraies désertions étaient quand même relativement rares, hein, mais les peines encourues par la tradition en conseil de guerre, c'était, suivant la gravité des faits et des circonstances, l'emprisonnement, la déportation, les travaux forcés ou la peine de mort. Alors, en France, entre 1914 et 1918, 2450 soldats ont été condamnés à mort, soit entre 2 et 3% des soldats traduits en conseil de guerre. Et, en fait, 953 ont été réellement exécutés. Les autres, suite à des recours en grâce ou en révision, ont vu leur peine commuée ou en emprisonnement, pour les plus chanceux, ou en travaux forcés en Guyane, ou en Afrique du Nord, ou déportés en Nouvelle-Calédonie. Alors, ce nombre de... Ça a été dit tout à l'heure par Pierre Valais. Ce nombre de... Vous me direz 953. Que signifient vos 953 soldats au regard de 1 410 000 morts des combats? Oui, mais ce qui frappe l'imagination, c'est le caractère injuste et barbare de la exécution. Voilà. Et en plus, pour affirmer leur exemplarité, les exécutions avaient lieu sur le fond des troupes, c'est-à-dire en présence de tous les soldats du régiment. Alors, le tableau suivant, voilà. Alors, soldats exécutés sans jugement, je vais vous en parler tout à l'heure, 82. Exécutés après jugement, 557. Exécutés après jugement pour cause de vol, de viol, de meurtre, 140. Exécutés après jugement pour espionnage, 127. Motif en conduit, 47. Alors, ces deux, je les ai volontairement sortis parce que ceux-là, ça relève du droit commun, ils ne sont pas réhabilitables. Personne ne demande la réhabilitation de ces gens-là. Parce qu'il faut savoir, c'est que c'était une mobilisation générale dans tous les pays, d'ailleurs, qui étaient entrés en guerre. Et dans la société militaire, dans l'armée, on retrouvait la même proportion de braves gens et puis un peu de malfrats qu'il y avait dans la société civile, si vous voulez. Donc, par contre, il y avait des gens de toutes conditions et de toutes tendances ou de toutes moralités. Donc, il y a eu quand même des gens qui sont rendus coupables de droit commun. Hein. Par conséquent, cela, on ne demande pas, personne ne demande la réhabilitation de ces gens-là. Voilà. Donc, si on les enlève à la liste d'ici, il nous en reste que 686, eux, sont réhabilitables. Alors, ce tableau prend en compte les fusillés sur le front dit du Nord-Est, c'est-à-dire sur le front franco-allemand, l'armée d'Orient, qui combattent les Dardanelles, Macédoine, Serbie, Grèce, Bulgarie et Palestine. Les corps d'armée également, les corps d'armée du Maroc et du Sud-Tunisien, qui étaient chargés d'assurer la sécurité de l'Empire colonial français et faire face éventuellement aux colonies allemandes d'Afrique orientale. Ce sont les derniers chiffres publiés par le service historique des armées. Les 82 soldats de la première catégorie ont été exécutés. Ils sont identifiés dans les archives militaires, on en est sûr. Hein. 27 ont été fusillés sur le champ de bataille sur ordre d'officier. 55 ont été fusillés ou exécutés sommairement par des officiers eux-mêmes. Les 604 soldats des 2e et 5e catégorie, celui-ci, ceci et cela, alors, ont été exécutés après passage en conseil de guerre. Alors, je l'ai dit, les 267 soldats de 3e catégorie ont été exécutés après passage en conseil de guerre, mais pour des motifs de droit commun, par conséquent, cela, je ne vous en parlerai plus. Alors, tableau suivant, voilà, il y a là, répartition par année. Alors, ce tableau ne prend en compte que les soldats des 1e, 2e et 5e catégorie, soit 686 soldats. Alors, en 1914, 186. En 1915, c'était un pic. 276, c'est énorme. Et là, il y a une décroissance en 1916, parce que je vous expliquerai qu'il y a une loi qui est intervenue en 1916. 121, en 1927, 84, 1917, 84, 1918, 14, 1921, 5, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée 6 du 11 novembre 1918 n'a pas marqué la fin définitive des combats. Notamment, l'armée d'Orient a été engagée après l'armée 6 en Russie, en Ukraine, pour combattre, pour aider les Russes blancs à combattre les bolcheviks. Alors, les soldats qui se croyaient démobilisés, eh bien, on les a envoyés encore au casse-pipe en Russie. Voilà. Ouais. Alors, je vais vous donner maintenant, je vais vous parler des tribunaux militaires et le rôle des politiques. Alors, le Code de justice militaire, institué par une loi de 1857 et modifié en 1875, définissait le mode de fonctionnement des conseils de guerre ordinaires avec 5 juges et la possibilité de faire appel à des conseils de révision. Par décret du 10 et 17 août 1914, les possibilités de recours ont été suspendues. En plus, à la demande de Joffre, chef d'état-major, un décret du 6 septembre 1914 a créé les cours martiales, appelées conseils de guerre spéciaux, constitués de seulement 3 juges et prévoyant, en outre, la suppression du droit de grâce et la suppression du conseil de révision. Est-ce que tu peux envoyer le manuscrit? Ah oui, alors ça, c'est un siège du conseil de guerre dans une église. Bon, ils se réunissaient dans les bâtiments qui étaient encore restés debout. Hein. L'église, il y en avait qui était restée debout, et ils se réunissaient soit dans les églises. Voilà. Voilà, une photo d'un conseil de guerre. Alors ensuite, alors voilà, ça, c'est le manuscrit qu'a réalisé Mirand, hein, qui était à ce moment-là ministre de la guerre, qui a été envoyé au général Joffre, qui était sur le front, pour lui dire qu'il lui donnait carte blanche pour régler les problèmes de cour martiale. Hein, et ce manuscrit a été, si vous voulez, confirmé par un décret. Tu peux le montrer. Voilà. Décret du 6 septembre 1914 créant les cours martiales. C'est-à-dire que là, on était revenu, enfin, venu à un conseil de guerre avec trois juges, mais c'était tous des militaires. Hein. Et alors, ils avaient toute latitude pour juger et exécuter les sentences. Alors, la cour était constituée du commandant du régiment et de 2 officiers. La majorité, c'est le sort du soldat. En cas de condamnation à mort, la sentence était appliquée dans les 24 heures. À partir de 1916, devant les abus révélés par la presse et les associations, le Parlement a atténué cette justice expéditive. Une loi du 27 avril 1916, proposée par le député Paul Meunier, a supprimé les conseils de guerre spéciaux imposés par Joffre. Un décret du 8 juin 1916 rétablit les conseils de révision, voilà, l'usage du droit de grâce et la prise en compte des circonstances atténuantes. Il est composé de 5 membres, on revient un peu au conseil de guerre d'autrefois, il est composé de 5 membres, dont 3 militaires et 2 magistrats de la cour d'appel de la région où se situe le jugement, dont un préside le conseil. C'est un civil qui préside le conseil de guerre. Cette loi et ce décret expliquent en partie la décroissance des exécutions à partir de 1916. Alors en réalité, les cours martiales, elles ont été appliquées, certes, oui, mais pas sur tout le front. Hein. Dans les secteurs où Joffre traînait par là, oui, c'était les cours martiales. Les secteurs un peu plus éloignés, des tribunaux militaires ont fonctionné dans l'ancien régime, voilà. Mais, donc, il y a eu un mélange un peu des deux, et heureusement, ces affaires de cour martiale, ça n'a pas trop duré, et heureusement, parce que sinon, je ne vous dis pas le nombre d'exécutés qu'il y aurait eu. Hein. C'est ainsi, donc, en 1916, sur 384, en 1916, 384 condamnations à mort, 263 ne seront pas appliquées suite à des recours en grâce présidentielle, soit 70%. On observera la même proportion en 1917 et 1918. Voyez un peu, si cette loi n'avait pas existé, le nombre de fusillés, par exemple, aurait été multiplié par 2 ou par 3. Et on frémit à cette idée-là. Hein. Mais l'état-major trouve cette loi un peu trop laxiste. Il estime que certains soldats, dont la peine, quelle qu'elle soit, a été commuée en simple emprisonnement, devraient au moins retourner au front. Il y a les soldats qui ont été, ceux qui ont été graciés, ils n'étaient pas qu'en prison, ils allaient souvent au bar, bien sûr. Hein. Mais pour des délits moindres, ils étaient emprisonnés. Et l'état-major disait, mais ils sont emprisonnés, c'est la planque pour eux. Alors, ils les ont renvoyés au front. Par conséquent, l'état-major, et Joffre en particulier, a eu un peu sa revanche. Voilà. C'est ce qui va se passer, et il aura en partie sa revanche, d'accord, suite aux mutineries de 1917, à la demande de Le Pétain, devenu chef d'état-major, un décret, quand même, du 18 juillet 1917, supprime la possibilité de recours auprès du conseil de révision et du droit de grâce pour les militaires reconnus coupables de rébellion, hein, et ça va s'appliquer, ça, au chemin des dames en 1917. Pétain confirmera la condamnation à mort d'une quarantaine de soldats qui avaient été condamnés par son prédécesseur, mais que lui a confirmé. Bien qu'après lui, Pétain n'ait pas ordonné de condamnation à mort par la suite. Voilà. On retiendra que sur les 686 soldats fusillés, réhabilitables, 82, j'y reviens, l'ont été sans jugement, et 497 jugés par des conseils de guerre ordinaires, et 107 jugés par des conseils de guerre spéciaux. Alors, je vous donne maintenant très rapidement la chronologie des exécutions. Elles sont en rapport avec les éléments militaires sur le front. Joffre, chef d'état-major, jusqu'en 1916, n'a qu'une stratégie, l'offensive à outrance. Coûte que coûte, pour, dit-il, user l'adversaire. Mais il se trouve qu'il va aussi, et surtout, user sa propre armée. Alors qu'en toute logique, compte tenu de son infériorité matérielle et numérique, il aurait dû être économe de ses soldats. Ça n'a pas été le cas. C'est ainsi que ces pauvres soldats français, lancés dans des attaques suicides avec baïonnette à canon et pantalon rouge, garant ce qui se voyait à perpète, hein, se faisaient faucher par les mitrailleuses comme une marionnette de cirque. Alors qu'en face, le soldat allemand, dans son uniforme felgrau, c'est-à-dire un vert de gris, et son casque à pointe en cuir bouilli, il passait presque inaperçu dans le mouvement. En 1914, alors les mois d'août et septembre sont marqués par la défaite française dans la bataille dite des frontières. Trois armées françaises engagées en Belgique, en Lorraine et en Alsace, dont une en Lorraine commandée par le général de Castelnau, que vous avez tous entendu parler parce que c'est un dernier, sont engagées très imprudemment en Alsace et en Lorraine, mais le piège se referme, ils vont tomber comme des mouches entre l'artillerie lourde allemande et les mitrailleuses, et c'est un véritable massacre. Dans une seule journée, 22 000 soldats en Belgique, en Moselle et en Alsace vont mourir. Les autres, les survivants se replient, mais en combattant. Que dit Joffre dans cette situation? Il dit, les soldats se sont très mal battus, ils n'ont pas tenu sous le feu. Une accusation reprise par un certain Gervais, sénateur parisien, qui écrit dans le journal ultra-conservateur Le Matin, les soldats du Midi, parce qu'il faut que je vous dise que les armées de Lorraine et d'Alsace étaient constituées essentiellement de méridionaux. Voilà. Alors, Gervais, sénateur parisien, écrit dans le journal Le Matin, les soldats du Midi se sont comportés comme des poltrons et des lâches. Cette grave accusation est en fait initiée en sous-main par Joffre lui-même et le ministre de la Défense de l'époque, Alexandre Messini. La presse du Midi se déchaîne contre ces accusateurs imbéciles, affirmant au contraire que la défaite aux frontières n'est pas due au manque de combativité des soldats, qui sont du Midi ou d'ailleurs, mais à l'amateurisme et l'incompétence de l'état-major. Voilà qui va jeter de l'huile sur le feu. Le journal Le Matin répond en ces termes, mais les gars du Midi, bien sûr, c'est pas la région qui est envahie, alors ce qui se passe pour eux dans le nord et dans l'est du pays, ça fiche pas mal, et ils ont battu en retraite au premier coup de canon sans combattre. La dépêche du Midi réplique, les soldats du Midi, parlons-en, non seulement ils ont été sacrifiés, mais en plus, ils sont diffamés, ils sont victimes de brimades et de dénigrements, et ça c'est inadmissible. Même dans les hôpitaux de campagne, ils sont maltraités et mal soignés. On cite le cas d'un soldat d'Agen, dans le Lot-et-Garonne, pardon, pas d'Aveyron, hein, que le médecin militaire soigne, va soigner, mais auquel il dit, vous êtes du 15e corps d'armée, vous êtes du Midi, alors vous passerez après les autres. Et il laisse ce pauvre soldat sur sa paillasse avec ses souffrances. Un climat délétère s'installe et la polémique enfle entre la presse parisienne et le journal du Midi. jusqu'à ce qu'à l'Assemblée nationale, des députés, et pas que du midi d'ailleurs, montent au créneau, comme on dit aujourd'hui, et demandent au gouvernement de faire cesser cette polémique et de faire taire ce fameux journal le matin qui lance des affirmations comme ça de la nature, ça donnera la preuve de quoi que ce soit. Effectivement, le gouvernement intervient et la polémique cesse. Et surtout, le journal le matin se tait. Alors, la première victime civile, si je peux dire, de cet événement, c'est que le ministre Messimi va être purement simplement limogé et remplacé par Mitterrand. Mitterrand qui sera un futur président de la République. Alors, mais le mal est fait, et Joffre prend prétexte de la défaite aux frontières pour exercer sur l'armée un contrôle d'une sévérité extrême. Il dit, je le cite, « Les fuyards doivent être recherchés et passés par les armes. » Ça promet. « Tout repli sans ordre sera assimilé à un abandon de poste devant l'ennemi ou à de la désertion et passible de la cour martiale. De même, il va faire la chasse à toutes les blessures dites mutilations volontaires. Et il donne l'ordre aux médecins qui opèrent dans les hôpitaux de campagne de faire un rapport précis sur l'état des blessures sur les soldats, savoir si par hasard des blessures par balle à la main, à l'avant-bras ou au pied ne seraient pas par hasard des mutilations volontaires. Et il se trouve que des médecins militaires zélés pour plaire à la hiérarchie n'hésitent pas à dire dans leur rapport que, oui, des blessures constatées sur tel ou tel soldat sont de nature à être des mutilations volontaires. Il n'en faut pas davantage pour envoyer ces pauvres soldats devant le peloton d'exécution. Voilà. Courant septembre, lors de procès expéditifs, environ 50 soldats, la plupart du Midi d'ailleurs, puisqu'ils avaient commandé en Alsace et en Lorraine, sont fusillés au motif de lâcheté, abandon de poste devant l'ennemi et mutilation volontaire. Voilà. La bataille continue, la France est envahie et les Allemands arrivent à 40 km de Paris. Mais là, miracle se produit, alors qu'on pensait que les Allemands allaient investir Paris comme référait le coup de 1870, mais à mieux. Ils obliquent un peu leur itinéraire, ils se dirigent vers le sud pour envelopper l'armée française. Péché d'orgueil de l'état-major allemand, coup d'œil de Gallieni qui commande la place de Paris et qui propose à Joffre d'attaquer les Allemands sur le flanc. S'engage alors à la première bataille de la Marne, victorieuse pour la France, puis ensuite la course à la mer, la mêlée des Flandres, puis après la guerre de mouvement cesse, la guerre de tranchées commence, les adversaires s'enterrent, et on en prend pour 3 ans et demi de guerre de tranchées. Voilà. Et alors, 1914, on arrive à la fin de 1914, mais le bilan pour la France est terrible. Tu peux ressentir le tableau des fusillés. Voilà. Ouais. Alors, non. C'est les premiers tableaux. Voilà. Alors, donc, 186 soldats seront fusillés, par exemple, au même motif que ce que je vous ai dit. Abandon de poste devant l'ennemi, lâcheté, mutilation volontaire. Mais le bilan général de l'armée, il est tout aussi effroyable. 310 000 morts, je dis bien 310 000 morts, 550 000 blessés, 120 000 prisonniers. Grosso modo, 900 000 hommes ont disparu de la circulation côté français. Bon. Et on ne sait pas que depuis 4 mois et demi, d'ailleurs, si vous voyez les monuments aux morts, vous verrez le nombre de morts en 1914, il y en a autant, si ce n'est plus qu'en 1915 ou 16. Voilà. Par comparaison, côté allemand, environ 180 000 morts, 350 000 blessés. Que 180 000 morts. Mais vous voyez, il y a quand même un différentiel. Alors, en 1915, c'est la même, c'est une année noire. La même stratégie provoque les mêmes effets. On lance les régiments, baïonnettes au canon, face aux mitrailleuses qui crachent. Bon, c'est de nouveau des hécatombes. Alors, échec des offensives françaises en Artois, en Argonne, en Champagne. Les soldats sont désespérés. D'ailleurs, les premiers cas de désobéissance apparaissent. Je vous parlerai tout à l'heure des caporaux de soins dans la Marne qui ont refusé, malgré l'ordre des officiers, de sortir de la tranchée pour monter à l'assaut. En disant, mais c'est pas la peine, on va tous mourir, quoi. Ils ont été arrêtés, ils sont passés en conseil de guerre, 4 ont été fusillés, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors voilà, alors des fois on enlève la première ligne, on bute sur la seconde. Alors, le terrain gagné est perdu le lendemain, des fois le soir même. voilà, les deux armées jouent à qui perd gagne et on n'en sort pas, et le front ne bouge pas. Ouais. À la fin de l'année, encore 320 000 morts côté français, 550 000 prisonniers. Et 276 soldats fusillés, pour l'exemple. Pour les mêmes motifs que précédemment, auxquels s'ajoutent des cas de désobéissance, individuelle ou collective. Voilà. Alors, côté allemand, à peu près que 200 000 morts. Il y a encore ce différentiel. 1916 est marqué par deux grandes batailles, Verdun et la Somme. Alors, l'état-major allemand sait que les pertes allemandes sont supérieures, que les pertes françaises sont supérieures aux pertes allemandes. Alors, il veut attaquer, une bonne fois pour toutes, la France, les Français, au centre du front, à Verdun, à la bataille de Verdun. Voilà. Il veut, comme il dit, saigner à blanc l'armée française, mais il va aussi saigner à blanc l'armée allemande. Pour la première fois, les pertes s'équilibrent à Verdun, à peu près à 220 000 morts de chaque côté. Voilà. Après 8 mois de bataille. La bataille de la Somme, engagée à l'initiative des Anglais et des Français, est un demi-échec, demi-succès. Là aussi, on a gagné peut-être un peu plus, 15 à 20 km, mais c'est encore plus coûteux que Verdun, surtout pour les Britanniques. Malgré une année plutôt à l'avantage des Alliés, 110 soldats français sont tombés devant le peloton d'exécution pour le même motif que précédemment. Mais la loi du 27 avril 1916 a permis incontestablement de sauver la vie à plus de 200 soldats. Donc, par conséquent, cette loi, quand même, elle a eu un effet bénéfique. 1917, c'est une année qui est indissociablement liée à la bataille dite du chemin des dames. Dans cette première phase, cette bataille, mal préparée par le général Nivelle, est un nouveau désastre. Des régiments entiers sont décimés. Cette fois, la coupe est pleine. Les survivants refusent de monter ou de remonter à l'assaut. Un nouveau type de désobéissance apparaît, la mutinerie. Elle gagne des régiments et des bataillons entiers. Environ 50 000 hommes, selon les historiens, refusent de monter à l'assaut. Et non seulement ils refusent, mais ils quittent leur position. Ils se répandent dans les villages de la campagne voisinante. Des bagarres éclatent entre eux-mêmes et les gendarmes venus les arrêter. On entend la fameuse chanson de Craon, qui a fait le tour du monde. L'état-major s'affole, puis se ressaisit. On arrête des soldats, des sous-officiers même. Mutins ou pas, parfois pris au hasard, ils sont jugés. 40 d'entre eux sont condamnés à mort. Nivelle est remplacé par Pétain qui refuse le recours en grâce de ces 40 condamnés à mort et qui seront donc fusillés. Mais Pétain n'engagera pas d'autres condamnations à mort. La bataille reprend, plus localisée et mieux coordonnée. Les Français enlèveront le chemin des dames qu'ils reperdront au printemps 1918. En 1917, 84 soldats tomberont devant le peloton d'exécution. Hop là. Voilà. Alors, en 1918 marque le retour de la guerre de mouvement. L'état-major allemand transfère sur le front roumain 600 000 soldats suite au traité de paix que le nouveau gouvernement bolchevique vient de passer avec l'Allemagne. Il veut en finir avec les Français et les Anglais avant que les Américains, entrés en guerre en 1917, n'arrivent en masse et donnent la supériorité numérique et matérielle aux Alliés. L'offensive allemande commence au printemps. Le but des Allemands, c'est de placer des offensives entre les Français et les Anglais pour les séparer et les battre séparément. Alors, tout moyen réuni, ils attaquent les positions anglaises dans le nord du front et américaines, et positions qui sont enfoncées. Puis ce sont les Français qui reçoivent le choc principal. Le front français recule, c'est important, recule, plie, mais ne rompt pas. 3 mois de combats acharnés, la valeur de l'attaque n'a d'égal que la valeur de la résistance. Mais l'empêche, les Allemands arrivent, comme en 1914, à 40 km de Paris. Mais là, ils sont tous les efforts les plus coûteux ne leur ont pas permis de remporter un succès décisif. Au contraire, les Français, toujours eux, vont les arrêter au cours de la seconde bataille de la Marne et les refouler. Foch, nommé généralissime des armées alliées, lance la contre-offensive. Elle est irrésistible. Tout le terrain perdu est reconquis. L'état-major allemand demande l'armistice qui est conclu le 11 novembre. Voilà. Mais au cours de cette première phase, c'est pour ça que je vous ai parlé de tout ça, l'armée française, au cours de la première phase de cette bataille, l'armée française a reculé de 40 voire 50 km en certains endroits. Et seulement si je puis dire, 14 soldats ont été fusillés. Mais ils ont fusillé pour moins que ça, en 1914, 15, 16, 17. Un repli sans ordre, même insignifiant, suffisait pour vous envoyer devant le peloton d'exécution. Cette relative clémence a, selon les historiens, deux explications. Deux. D'une part, l'état-major avait mis en place un système de défense non plus linéaire mais en profondeur, par paliers successifs destinés à affaiblir l'attaque allemande. Et en effet, ça a porté ses fruits. Cette fois, la retraite n'était pas bannie, mais programmée. En fait, une stratégie intelligente, si je puis dire. Deuxième explication, il aurait enfin compris l'état-major, l'état mental des soldats, après les belles offensives menées les années précédentes, et le fait que les exécutions n'étaient pas le meilleur moyen pour les motiver, face au péril que représentait la présente façon allemande. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas compris plus tôt? Toutes ces explications, aussi fondées soient-elles, ne demandent pas les tribunaux militaires de leurs abus et de leurs sanctions, et de leurs exactions. En somme, vous l'avez compris, sur le front, plus on échoue et plus on fusille. Sans doute l'état-major, rejetant sur ses soldats la responsabilité de ses propres erreurs stratégiques, avait-il estimé qu'il convenait d'en fusiller certains pour que les autres terrorisés deviennent de bons soldats. Quel funeste calcul, car ils étaient déjà tous de bons soldats. Alors, je vais maintenant vous parler de la désertion et de la mutinerie. Ce sont des notions. Hein. Alors, la désertion. Trois cas de désertion peuvent être observés. Les soldats qui se sont enfuis, réfugiés dans le sud de la France ou en Espagne, seul pays neutre à l'époque, qui ont donc échappé à la police et à la gendarmerie et n'ont pas été retrouvés pendant toute la durée du conflit. Ceux-là sont de vrais déserteurs. Dans les archives militaires, ils sont classés disparus, mais pas sur le champ de bataille et rangés dans la catégorie des non-morts pour la France. Une loi du 3 janvier 1925 a accordé l'amnistie à ces déserteurs à condition qu'ils aient, au moins pendant 3 mois, participé au combat en première ligne, ou qu'ils aient été blessés ou faits prisonniers, ou qu'ils soient restés en France. Une autre loi de 1931 a accordé l'amnistie totale, dans les mêmes conditions, même à ceux qui avaient quitté le territoire. Autre cas, les soldats permissionnaires dont je vous parlais tout à l'heure, qui avaient rejoint leur poste de combat 2 jours après la date limite de retour, dans leur régiment. Ils entraient automatiquement dans la catégorie des déserteurs. Ils constituaient la majeure partie des cas de désertion. Donc, en général, ils n'étaient pas fusillés, mais emprisonnés, sauf s'ils récidivaient et s'étaient rendus coupables d'autres délits. Les soldats qui ont quitté la zone de combat et qui ont été arrêtés à l'arrière de la ligne de front, alors qu'ils n'avaient pas reçu d'ordre de repli. Voilà. S'agissait-il d'actes de désertion, ou d'abandon de poste devant l'ennemi, ou de repli, ou ni l'un ou ni l'autre, ces notions sont difficiles à dissocier. Les tribunaux militaires, eux, ne se posaient pas la question, jugeant toujours à charge, avec ou sans instruction préalable, ou condamné à la peine de mort. Alors, la mutinerie, maintenant. En 1917, contrairement à 1914, la France n'était pas directement menacée d'invasion. Les soldats, sur le chemin des dames, ne refusaient pas le combat. Ils refusaient collectivement de remonter à l'assaut. La notion de mutinerie, qui avait gagné plusieurs divisions, apparaissait pour la première fois. On peut se poser la question suivante. Pourquoi les autorités ont-elles réprimé avec modération les mutineries de 1917? Parce qu'en 1917, on a dit qu'il n'y avait que 84 fusillés, pour exemple. Les historiens, tels le français Guy Bedroncini, mais aussi l'américain Leonard Smith et l'anglais Joe Winter, s'accordent sur le fait que les soldats auraient, de façon collective, pris l'ascendant sur le commandement, estimant à juste titre la vraie proportionnalité entre l'objectif à atteindre et le coût réel à payer pour atteindre cet objectif et donc la capacité de dire non. Cette formule un peu provocatrice démontrerait que le sort de la bataille dépendrait plus des soldats qui l'amènent que du commandement. Ce serait la raison pour laquelle le général Nivelle, évincé, a été remplacé par Pétain, qui a mené une gestion plus humaine, entre guillemets, des mutineries, bien qu'il ait confirmé, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'exécution de 40 soldats condamnés à mort par les tribunaux, mais placés sous l'autorité, ces tribunaux, placés sous l'autorité de son prédécesseur, à chacun d'en juger. Alors je terminerai ce chapitre par une remarque. Entre les balles ennemies, le déluge de feu, les bombardements, la confusion des assauts, les gaz, les fumées, les morts, bien des soldats se trouvaient désorientés, pétrifiés, perdus. Étaient-ils des lâches fuyant le combat? Ou bien de bons soldats anéantis par la violence du choc? Les réponses ont été diverses, souvent injustes. Ces notions de désertion et de mutinerie ont effectivement fait débat et alimenté les réticences des sénateurs et des parlementaires lors de l'examen des demandes de réhabilitation. Les associations demandent que tous ces soldats, déserteurs ou pas, mutins ou pas, soient réhabilités, considérant qu'on ne peut pas, à cause d'une minorité dont nul ne peut prouver la faute, pénaliser les autres qui représentent la majorité des soldats fusillés. Voilà. Alors, je vais, dans le chapitre de la réhabilitation, je vais vous parler, avant qu'on fasse la pause, si vous voulez, d'abord du classement des soldats morts. Et après, je vous poursuivrai par les perspectives de réhabilitation, les conséquences pour le famille, etc. La mention « mort pour la France » a été instituée par la loi du 2 juillet 1915, modifiée par la loi du 22 février 1922. Elle ouvre droit de sépulture individuelle et perpétuelle dans les cimetières militaires, d'inscription sur le monument aux morts dans leur commune d'origine des soldats, d'association de veuves et orphelins de guerre, d'attribution de pensions aux veuves. Alors, les soldats morts pour la France sont considérés morts pour la France les soldats morts au combat, ou dont la mort est la conséquence directe des combats, si le décès intervient avant le 24 octobre 1919. Ouais. Et à condition que le lien entre le décès et les blessures contactées, au combat, soit prouvé. Les soldats disparus sur le champ de bataille. Les soldats décédés suite à des accidents survenus en service. Ils sont environ 1 300 000 dans ce cas. Les soldats non morts pour la France. Cette mention est instituée par l'institution du 11 janvier 1922 et s'applique aux soldats morts, mais dont la cause du décès n'est pas la conséquence des combats. Il s'agit des soldats fusillés, des soldats morts de maladie, d'accidents survenus hors service ou de morts inconnues, dites non renseignées. Ce n'est pas de quoi ils sont morts. Mais ils sont plus là. Soldats dont personne ne peut apporter la preuve que le décès était la conséquence directe des combats. Les fiches de ce dernier n'ont pas été instruites, souvent par défaut ou erreur de renseignement. C'était en majorité des soldats pour lesquels aucune revendication n'a été faite, soldats sans famille, orphelins ou combattants indigènes. Il serait environ 100 000 dans ce cas. L'établissement des fichiers, je passe rapidement, sur le front, les officiers disposaient d'un carnet à souche, appelé carnet de champ de bataille, qui était rempli par eux. Ils y mentionnaient les décès, les inhumations, les évacuations et les disparitions. Ces fiches étaient de couleur verte pour les morts pour la France, bleue pour les fusillés, jaune, grise ou mauve pour les accidents, pour les morts de maladie ou d'accident. Un exemplaire était destiné au ministère de la Guerre et a servi à la classification des soldats morts. Un exemplaire était destiné au maire de la commune où avait lieu l'inhumation, c'est donc sur place. Un exemplaire restait au carnet à souche qui allait au ministère. C'était le ministère qui envoyait l'avis de décès au maire de la commune où résidait le soldat, avec la cause du décès. On comprend l'importance que revêtait l'établissement de ces fiches, car les éléments qu'elles contenaient déterminaient le classement des soldats morts dans l'une ou l'autre des deux catégories, morts pour la France ou non morts pour la France. et les conséquences qui en découlaient pour les familles des soldats. Certaines erreurs sont glissées dans la rédaction de ces fiches, parfois illisibles, ou erreurs d'affectation des régiments, ou surtout cause du décès. Concernant les soldats fusillés, ces anomalies ont apparu en recoupant les diverses sources d'informations, dossiers de justice militaire et fiches matriculaires établies par les officiers dont je vous parlais à l'instant. Conséquences pour les familles. Les familles des soldats fusillés, pour l'exemple, ont dû supporter toute leur vie, en plus du deuil, le poids de la suspicion, du déshonneur et de la honte injustifiée. La veuve était privée de pension. Courant 2015, la Ligue des droits de l'homme et la Libre Pensée avaient organisé à Rodez une conférence sur ce sujet. Elles avaient invité à y participer un petit-fils d'un soldat aveyronnais fusillé pour l'exemple, qui a raconté, la voix cassée par l'émotion, ce qu'a été la vie de sa grand-mère et de ses parents. Plus loin de chez nous, on pourrait citer le cas de plusieurs soldats fusillés pour l'exemple, dont les veuves ont reçu toute leur vie des insultes et des menaces en tout genre, y compris des menaces de mort. Alors, j'en viens maintenant un peu à l'histoire. Rappel historique. Dans les années 20, alors que le conflit était encore récent, le service historique de la défense nationale à Vincennes était le seul organisme habilité à recevoir la demande de réhabilitation, mais n'avait aucun pouvoir de décision. Il transmettait le dossier à la chambre d'accusation de la cour d'appel du requérant, qui statuait définitivement sur la demande de réhabilitation. Une dizaine de soldats environ a été réhabilités dans ce cas-là. Dans les années 30, la Ligue des droits de l'homme, l'Association républicaine des anciens combattants et la Libre Pensée, faisant pression auprès des parlementaires, ont obtenu la création en 1932 de la Cour spéciale de justice militaire. Celle-ci ne fut opérationnelle qu'en 1934, mais fut dissoute en 1935. Au total, 40 soldats seulement ont été réhabilités. La Deuxième Guerre mondiale et son cortège de l'atrocité ont relégué au second plan les horreurs de la première et les choses en sont restées là. Pendant 60 ans, il ne s'est pratiquement rien passé au niveau de la réhabilitation. Puis, en 1998, discours de Lionel Jospin, alors Premier ministre à Craonne, en faveur de la réhabilitation. Cette initiative avait été critiquée par Jacques Chirac, alors président de la République, et par Philippe Séguin. Dans la foulée, le député radical Gérard Schwarzenberg a proposé un réexamen des dossiers des fusillés pour l'exemple en vue d'une réhabilitation qui ne passerait pas nécessairement par une loi, mais qui serait le résultat du travail des services historiques de la Défense nationale, c'est-à-dire la réouverture et l'étude au cas par cas des dossiers que la Cour spéciale de justice militaire n'avait pas eu le temps ou la possibilité en 1934 d'ouvrir et d'instruire. Cette idée un peu aléatoire n'a pas fait l'unanimité, surtout auprès des associations, et a été abandonnée. En 2008, Jean-Marie Bockel, alors secrétaire d'État à la Défense, a dit réfléchir à une réhabilitation, toujours pareil, au cas par cas, c'est-à-dire à la proposition précédente, sans plus. En 2008, Nicolas Sarkozy, président de la République, a rendu hommage à tous les morts de la Première Guerre mondiale, y compris les fusillés, par exemple, mais sans suite. En 2011, les sénateurs communistes du Parti de gauche, s'appuyant sur un rapport de l'historien Guy Fischer et au nom de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, ont déposé une proposition de loi portant sur la réhabilitation collective des fusillés, pour l'exemple. Mais malencontreusement, elle contenait une notion de pardon, ce qui laissait supposer qu'il y aurait eu faute les prévenus, ce qui n'est pas le cas. Mais ce projet, de toute façon, a été rejeté par le Sénat à une écrasante majorité. En 2013, l'historien Antoine Prost a remis un rapport au ministère de l'époque, Kader Arif, une interprétation assez étroite de ce document ouvrait à nouveau la voie à une réhabilitation au cas par cas, ce qui a été fortement contesté par les associations, elles les avaient déjà contestées, le cas par cas depuis déjà belle lurette. En 2015, les associations ont réitéré auprès de M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État aux anciens combattants, une demande de réhabilitation collective, à ce jour sans résultat. François Hollande, qui s'était prononcé en faveur de l'arbitration du temps du bateau de la campagne en 2012, n'a pris au cours de son mandat aucune décision et la situation n'a pas évolué. Les seules compensations obtenues sont l'ouverture d'une salle dédiée aux fusillés, pour l'exemple, au musée de l'armée aux Invalides. La numérisation et la mise en ligne des dossiers des fusillés, pour l'exemple, consultables sur le site Mémoire des Hommes. Voilà. Alors, l'objectif des associations, quel est-il dans cette situation de blocage? Elles considèrent que, 100 ans plus tard, les possibilités judiciaires d'étudier et de statuer sur près de 650 dossiers sont aléatoires et irréalistes, compte tenu que au moins 20% des dossiers sont incomplets ou illisibles, donc inexploitables ou même égarés. Jusqu'en 1916, sous le régime de fins de guerre spéciaux, il n'y avait pas d'instruction préalable, donc aucune pièce au dossier. Dans ces conditions, elles estiment que la réhabilitation collective est la seule possible et qu'elle ne peut être que politique. Il appartient au président de la République de demander de faire une déclaration se rendant favorable à la réhabilitation collective et de demander, conformément à la Constitution, la promulgation d'une loi à... d'une loi qui procéderait, entre autres, à l'annulation des condamnations et permettrait l'inscription « mort pour la France » sur le registre d'état civil et l'inscription sur le monument à mort « mort pour la France ». Voilà. Je n'ai pas beaucoup, mais bon, j'arriverai quand même. Alors, les initiatives, ça ce sont les initiatives nationales et des associations. Les initiatives, alors, des collectivités régionales, départementales ou communales, se sont, par délibération, prononcées en faveur de la réhabilitation collective des fusillés, pour l'exemple, et demandé au président de la République de prendre une position ferme dans ce sens et de lancer la procédure législative. Il s'agit, au niveau des régions, de la Corse, la Champagne-Ardenne, le Limousin, des départements de l'Aisne, l'Allier, l'Ardèche, la Corrèze, le Doubs, la Haute-Garonne, l'Hérault, la Loire, l'Oise, le Rhône, la Haute-Saône, la Somme, l'Essonne et la Nièvre. Communes du département de l'Aveyron, Cap de la Gare, Olemps, Nocelles, Centresse, Cap-Jacques, Caisse et Sauveterre-de-Rouergue. L'association La Libre Pensée a écrit en 2013 à M. le Président du Conseil Général de l'Aveyron pour lui demander que l'Assemblée départementale se prononce en faveur de la réhabilitation collective. À ce jour, elle n'a pas eu de réponse, bien que la demande ait été dernièrement réitérée. Toutes ces initiatives que les associations sollicitent et souhaitent, toujours plus nombreuses, sont autant de messages d'espoir. Voilà. Alors j'en ai fini au sujet de la réhabilitation. Si on peut essayer de marquer une pause, c'est ça, monsieur le président.
Je pense que nous,
on a... Où est l'ouverture du débat auquel je réponds.